Vivre la joie chrétienne à l'école de Thérèse, 10e conférence, prier devant le très saint sacrement. Je vais avoir la joie de vous parler de la prière devant le très saint sacrement telle que Thérèse de Lisieux la vivait. Je rappelle d'abord que la foi chrétienne dans le réalisme de la présence eucharistique est quelque chose de très ancien. On n'a pas attendu les contestations protestantes ou autres pour l'affirmer. Il n'y a jamais eu de concile pour affirmer ce dogme, car il peut y avoir des dogmes sans concile. Exemple, la conception virginale qui est passée dans le symbole des apôtres sans exiger la réunion d'un concile. Par exemple, Théodore de Mopsueste, mort en 428, remarque, « Le Seigneur n'a pas dit « Ceci est le symbole de mon corps », ceci est le symbole de mon sang, mais ceci est mon corps, ceci est mon sang. Parce qu'il voulait que nous n'envisagions pas ces éléments après qu'ils ont reçu la bénédiction et l'invocation de l'Esprit Saint, d'après ce que l'on en voit, mais que nous les recevions vraiment comme son corps et son sang. L'un des textes les plus beaux est sans doute celui dans lequel Cyrille de Jérusalem explique aux jeunes baptisés la façon dont ils doivent communier. Ils doivent communier en recevant le corps du Christ dans les mains, mais en faisant bien attention de ne pas écarter les doigts, parce que s'ils écartaient les doigts, ils pourraient laisser tomber quelques miettes de ce pain consacré. Dis-moi, supposons que l'on t'ait donné des paillettes d'or, ne les garderais-tu pas avec la plus grande attention, évitant d'en perdre quoi que ce soit et d'en être ainsi appauvri? Tu dois donc veiller avec bien plus d'attention encore à ne laisser tomber aucune miette de ce qui est plus précieux que l'or et que les pierres précieuses. Et pour ce qui est de la réception du sang du Christ, il dit, si après avoir communié au sang du Christ, tu sens un peu d'humidité sur tes lèvres, eh bien avec ton doigt, tu vas humecter tes yeux, tes mains, ton front et tes autres sens. Puis, en attendant l'oraison finale, rends grâce à Dieu qui t'a admis à de si hauts mystères. Bon, je n'insiste pas. Par contre, l'habitude de prier devant le tabernacle n'est venue qu'assez tardivement dans l'Église, il faut le reconnaître. J'aime bien d'être vrai dans mes petits topos. Cette habitude est venue tardivement dans l'Église et sans doute par réaction contre l'hérésie qui a ébranlé l'Occident dans la deuxième moitié du XIe siècle, lorsqu'un prêtre très zélé, très pieux, qui aimait beaucoup les pauvres, Béranger, a semé le trouble dans les esprits sur les bords de la Loire, à Tours, en enseignant une doctrine eucharistique que l'Église a estimé n'être pas suffisamment réaliste. Et en 1099, il a été obligé de signer un formulaire dans lequel il reconnaissait la présence substantielle du Christ, du corps du Christ, sous les apparences du pain et du vin. L'Antiquité n'a pas connu la visite au Saint-Sacrement. Bien que la visite des églises et des autels fût pratiquée d'assez bonne heure et qu'on vit se propager dès le IXe siècle dans les milieux monastiques l'usage d'aller prier devant certains autels consacrés à la Sainte Vierge ou aux saints dont on conservait les reliques. Au XIIe siècle est apparue l'habitude d'élever bien haut l'hostie après la consécration. Comme on célébrait déjà la messe d'eau au peuple, on ne pouvait pas voir le prêtre tenant l'hostie, et c'est à ce moment-là qu'on a demandé au prêtre d'élever bien haut l'hostie. Ce geste de la petite élévation date seulement du XIIe siècle, après l'hérésie de Béranger. Et du coup, on s'est mis aussi, quelque temps après, à élever le calice. C'est également au XIIe siècle qu'on installe une petite lampe devant la réserve eucharistique pour que les chrétiens sachent où porter leurs pas lorsqu'ils entrent dans une église pour y adorer le corps du Seigneur. Au XIIIe siècle, sous l'influence de sainte Julienne du Mont-Cornillon, une religieuse du diocèse de Liège, en Belgique, est instaurée la fête du corps du Christ. On fête justement cette année-ci le 750e anniversaire de cette institution. La fête Dieu, comme on dira plus tard, la fête du corps du Christ, Corpus Domini. C'est le siècle où la dévotion eucharistique se répand dans les milieux monastiques sous l'influence des ordres mendiants. Pensez à la joie qu'avait saint François d'Assise lorsqu'il apercevait
un clocher d'église et qu'il s'agenouillait en direction de ce clocher pour y adorer la Sainte Réserve. Au XIVe siècle, cette dévotion se répand chez les fidèles, mais il faut reconnaître seulement chez une élite. L'imitation de Jésus-Christ ne comporte aucune allusion à cette visite au Très-Saint-Sacrement, même dans le livre 4 consacré à l'Eucharistie. Peut-être était-ce par prudence contre les déviations qui commençaient à se faire jour, étant donné qu'au XIIIe siècle, il y avait eu pas mal de miracles eucharistiques, notamment à Douai, où le Christ était apparu sous les apparences d'un enfant ou sous les apparences d'un homme crucifié à l'endroit de l'hostie. Alors les gens, les chrétiens, désiraient peut-être un peu trop avoir une extase de ce genre-là, une apparition. Toujours est-il que l'imitation de Jésus-Christ n'en parle pas. On peut dire que c'est au XVIIe et au XVIIIe siècle que cette dévotion eucharistique va exploser, notamment à la suite des apparitions de Notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, où le Christ se plaint de ne recevoir qu'ingratitude de la part des chrétiens. D'ailleurs, la fête du Sacré-Cœur va être instituée le lendemain de l'octave du Très-Saint-Sacrement. Il y a bien évidemment un lien entre la fête du Sacré-Cœur et la fête du corps du Christ. Et l'un des livres qui va avoir le plus d'influence sur la piété eucharistique, c'est le livre écrit par Saint Alphonse de Ligorie, le fondateur des rédemptoristes, italien, originaire de Naples, qui va écrire un petit livre qui va être sans cesse réédité, Les visites au Saint-Sacrement. Vous savez que Saint Alphonse de Ligorie est vraiment un auteur best-seller. Son livre sur Marie a connu des centaines et des centaines d'éditions. Alors, je réponds à l'objection intelligente que vous pouvez vous faire. Ne faudrait-il pas revenir à la pratique de jadis, où justement on ne priait pas devant le Très-Saint-Sacrement? C'est une objection qui a été faite assez bien au XXe siècle, à la suite du Concile. Est-ce que l'aggiornamento ne consisterait pas à revenir à la pratique ancienne qui, justement, ignorait la dévotion au tabernacle? Je réponds tout simplement que c'est vraiment être retardataire, justement, être ringard, parce que dans l'Église, il y a des progrès, dans tous les domaines. Au XXe siècle, on a enfin compris que la torture était quelque chose de très mauvais, alors qu'au Moyen-Âge, on trouvait tout à fait normal de torturer quelqu'un, de se le soumettre à la question pour avoir des renseignements précieux pour la sécurité du peuple. Quel est le chrétien qui dirait aujourd'hui qu'il faut revenir à la torture? De même, on a pris de plus en plus conscience de tous les privilèges de Marie. Il a fallu attendre 1854 pour que le pape Pie IX proclame l'Immaculée Conception, qui était contestée par un saint Bernard ou un saint Thomas d'Aquin. Eh bien, de même, l'Église a pris de plus en plus conscience que c'était bon de prier devant le Très-Saint-Sacrement. Et ce n'est pas une dévotion intimiste, personnelle, individualiste, non, c'est la dévotion à l'Eucharistie, telle que nous la pratiquons maintenant, est une dévotion qui fait de nous des êtres beaucoup plus solidaires du monde. C'est ce qu'a rappelé le cardinal Etchegaray à Liège, le 9 juin 1996, en célébrant le 750e anniversaire de l'institution de cette fête du corps du Christ par le pape Urbain IV. À chaque messe, le pain partagé nous convertit en hommes et femmes de partage. Cherchez le secret des sœurs de Mère Teresa ou du père de Foucault, des moines trappistes solidaires du peuple algérien jusqu'au sacrifice de leur vie. Partout vous découvrirez un tabernacle, une petite chapelle où la contemplation eucharistique pousse irrésistiblement au partage des souffrances et des espoirs de ceux qui ont faim de justice, de paix ou simplement d'amour. Alors nous allons voir comment Thérèse priait devant le Très-Saint-Sacrement. Je vous ai dit déjà qu'elle n'était pas celle qui restait le plus longtemps devant le tabernacle. C'est sœur Saint-Vincent de Paul, ainsi appelée parce qu'elle avait vécu chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul où elle avait été placée comme orpheline. C'est sœur Saint-Vincent de Paul qui faisait des marathons devant le tabernacle et qui distrayait aussi la communauté par les Gloria Patri tonitruants qu'elle entonnait en faisant la lessive avec une voix archifausse. On le savait, puisque, après sa mort, dans la petite circulaire nécrologique qu'on a envoyée à toutes les carmélites de France, on n'a pas manqué de le signaler. Les religieuses ne manquent pas d'humour, vous savez, elles peuvent se moquer comme ça gentiment des gens sans méchanceté. Par contre, Thérèse priait chaque jour de longues heures à la chapelle, à quelques mètres du tabernacle. Et elle chante en plusieurs poèmes sa joie de le faire. Elle la chante, cette joie, précisément pour faire plaisir à sœur Saint-Vincent de Paul. Les quatre poèmes proprement eucharistiques qu'elle compose, elle les offre à sœur Saint-Vincent de Paul. Elle ne tient pas compte que c'est cette sœur qui l'avait surnommée la Grande Biquette. Merci, sœur Saint-Vincent de Paul, d'avoir eu cette dévotion qui nous a permis, du coup, de mieux connaître la façon dont Thérèse vivait ses stations à la chapelle.